Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Grammaire anglaise de l'étudiant est un manuel de référence destiné aux francophones qui souhaitent comprendre et employer avec précision les structures de anglais contemporain. Rédigé par Serge Berland de Lépine et publié chez Ofris. Cet ouvrage volumineux appartient à une tradition de grammaire explicative conçue pour accompagner les études supérieures, la préparation de concours ou une remise à niveau exigeante. Son objet ne se limite pas à énoncer des règles. Il met en relation les formes anglaises, leurs valeurs de sens, leurs traductions possibles et les contraintes de contexte qui déterminent leur emploi. Les nombreux exemples traduits jouent donc un rôle central dans la démarche. Le livre accorde aussi une attention explicite aux variations admises par usage, aux particularités d'anglais américain et aux différences de registre. Les éditions révisées ont actualisé notamment les indications phonétiques, tandis que les éditions les plus récentes annonce des exercices supplémentaires avec corrigés. Il faut ainsi lire ce volume comme un instrument de consultation et de consolidation, davantage que comme une méthode de conversation autonome. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une grammaire contrastive pensée à partir des difficultés des francophones, la caractéristique première du livre est ce point de vue contrastif. Il ne présente pas anglais comme un simple inventaire de tableaux à mémoriser, mais comme un système dont certaines distinctions ne correspondent pas directement aux habitudes du français. Les exemples anglais sont accompagnés de traductions françaises soignées, ce qui permet de voir à la fois les rapprochements possibles et les décalages. Cette méthode est particulièrement utile lorsque plusieurs formes anglaises semblent pouvoir se traduire par la même expression française. La traduction ne sert alors pas de solution mécanique, mais de point de départ pour identifier la valeur précise de chaque construction. Une même forme française peut en effet recouvrir une différence de temps, aspect, détermination, modalité ou ordre des mots en anglais. Inversement, une structure anglaise peut demander une reformulation idiomatique en français. L'intérêt du dispositif est de rendre visibles ces zones de non-correspondance, qui produisent nombre de fautes chez les apprenants avancés. Le lecteur est conduit à raisonner sur le choix grammatical plutôt qu'à chercher un équivalent mot à mot. Cette orientation explique que le volume convienne mieux à une personne disposant déjà de bases en anglais ou prête à travailler lentement avec des exemples. Il fournit des repères pour analyser ses propres erreurs, notamment dans les exercices de version, de thème et de rédaction, sans prétendre remplacer une pratique régulière de la compréhension et de l'expression orale. Deuxièmement, les oppositions entre marqueurs plutôt que des règles isolées, le livre se distingue également par son attention aux nuances qui opposent les marqueurs grammaticaux. Une grammaire scolaire peut parfois réduire une difficulté à une formule générale, alors que le choix réel dépend de la manière dont le locuteur situe un fait, une relation ou une information. Ici, la démarche vise à expliquer pourquoi deux tournures proches ne produisent pas exactement le même effet. Cela concerne notamment les formes verbales, les auxiliaires, les modaux, les pronoms, les déterminants et diverses constructions syntaxiques. Cette perspective est essentielle pour dépasser une connaissance passive des règles. Connaître une forme ne suffit pas à savoir quand elle est la plus appropriée, ni ce que son remplacement par une autre forme modifie. L'analyse des oppositions aide donc à distinguer ce qui relève de la grammaire obligatoire, de la préférence idiomatique et de la nuance de sens. Les nombreux exemples ont pour fonction de tester ces écarts dans des phrases complètes, plutôt que dans des listes de mots. Le lecteur peut ainsi relier une décision grammaticale à une interprétation. Cette précision rend le manuel utile pour les anglicistes et les futurs enseignants, mais aussi pour tout lecteur qui doit produire un anglais écrit « contrôlé ». La contrepartie est une forte densité. Le livre demande une consultation ciblée et une reprise active des exemples. Il ne favorise pas une mémorisation immédiate, mais une compréhension progressive des mécanismes qui organisent anglais. Troisièmement, prendre en compte usage américain et niveau de langue, est l'ouvrage ne traite pas anglais comme une norme unique, uniforme et abstraite. Il signale les variations autorisées par usage, ainsi que des particularités observées dans la variété américaine. Cette ouverture est importante pour un étudiant confronté à des textes, médias et interlocuteurs issus de plusieurs espaces anglophones. Elle évite de présenter une différence courante comme une faute automatique, tout en maintenant la nécessité de reconnaître les normes de contexte. Le lecteur apprend ainsi que la question pertinente est souvent moins de savoir si une forme existe que de déterminer où, par qui et dans quelle situation elle est employée. Le souci des niveaux de langue complète cette approche. Une construction peut être grammaticale tout en paraissant familière, neutre, soutenue ou inadaptée à un document professionnel et universitaire. Cette dimension pragmatique est souvent absente des ouvrages limités aux exercices de transformation. Elle est pourtant décisive pour passer de phrases correctes à un usage crédible. en reliant les formes au registre. Le manuel aide à éviter deux écueils opposés, employer partout une tournure excessivement relâchée ou produire un anglais artificiellement solennel. Les indications ne dispensent pas de tenir compte du genre du texte et de la situation de communication, mais elles donnent un cadre d'observation solide. Cette attention conjointe à la variation américaine et au registre fait de la grammaire un outil de choix, et non seulement de conformité. Quatrièmement, une actualisation qui inclut prononciation et entraînement appliqué. Les éditions révisées de grammaire anglaise de l'étudiant ont conservé le caractère complet du manuel tout en actualisant certains éléments. Les présentations éditoriales des éditions antérieures mettent notamment en avant la révision des transcriptions phonétiques afin de les rapprocher de la prononciation contemporaine. Cet aspect rappelle que la grammaire ne se réduit pas à la page, écrite les formes et catégories décrites prennent aussi place dans une langue parlée. Les éditions les plus récentes annoncent en outre de nouveaux exercices accompagnés de corrigés. Ces activités ont une fonction précise, transformer une explication comprise en réflexe de sélection grammaticale. Après avoir étudié une opposition, le lecteur doit pouvoir reconnaître le contexte pertinent et justifier une réponse plutôt que répéter une règle. Il convient toutefois de vérifier le contenu de éditions achetées. Des avis concernant des éditions plus anciennes signalent que certains exercices ne disposaient pas tous de corrigés. Cette réserve ne remet pas en cause la vocation de référence du livre, mais elle modifie la manière de travailler en autonomie. Lorsque la correction manque, la consultation avec un enseignant, un dictionnaire grammatical ou une ressource complémentaire reste souhaitable. Même avec des corrigés, les exercices ne remplacent pas les lectures et écoutes authentiques. Ils constituent un entraînement analytique, particulièrement adapté à la consolidation des bases et à la préparation de travaux académiques. En dernier lieu, un ouvrage de consultation approfondie plutôt qu'une méthode complète de langue, avec son ampleur et son niveau de détail. Le volume doit être situé correctement parmi les outils disponibles pour apprendre anglais. Il répond avant tout au besoin de comprendre les structures et de résoudre des difficultés précises. Il est donc très efficace lorsqu'un lecteur revient sur un point mal maîtrisé, compare plusieurs formulations ou souhaite sécuriser une rédaction. Sa clarté repose sur une organisation par notions, sur des explications en français et sur une abondance d'exemples. Cette combinaison favorise une consultation répétée, à différents stades des études. En revanche, son objectif principal ne semble pas être de développer seul le vocabulaire, la fluidité conversationnelle, la compréhension orale ou les stratégies de communication. Un apprenant débutant absolu peut trouver la densité intimidante, tandis qu'un lecteur déjà autonome y trouvera davantage une ressource durable qu'un parcours progressif clé en main, pour en tirer profit. Une pratique raisonnable consiste à partir de ses erreurs réelles, lire la section concernée, recopier quelques exemples significatifs, puis produire ses propres phrases et les confronter à des usages authentiques. Cette méthode fait du livre un appareil de diagnostic et de précision. Les exercices renforcent le travail, mais le bénéfice le plus distinctif vient de la capacité acquise à expliquer un choix grammatical. Le manuel complète ainsi utilement un cours, une méthode communicative, des lectures en anglais et des outils lexicaux, sans chercher à se substituer à eux. En conclusion, Grammaire anglaise de l'étudiant s'adresse principalement aux étudiants francophones disposant de premières bases solides, aux anglicistes, aux candidats à des examens ou concours, ainsi qu'aux adultes qui souhaitent reprendre leur anglais avec méthode. Les enseignants et traducteurs en formation peuvent aussi y trouver un outil utile, car il aide à formuler les raisons d'un choix grammatical au lieu de fournir seulement une réponse. Son bénéfice pratique réside dans la consultation précise de difficultés récurrentes, choix de forme verbale, détermination, modalité, syntaxe ou registre. Son bénéfice intellectuel est plus large, il apprend à considérer la grammaire comme un système de sens et de contexte, non comme une série de recettes indépendantes. Par rapport à une grammaire courte ou à une méthode orientée conversation, il se démarque par la densité de ses exemples traduits, par son attention au contraste entre français et anglais, et par la place donnée aux nuances de registre et aux variations américaines. Les révisions éditoriales, incluant la mise à jour des indications phonétiques et, dans les éditions récentes, des exercices avec corrigés, prolongent cette ambition de référence. Son exigence constitue aussi sa limite, le livre demande du temps et ne couvre pas à lui seul le vocabulaire ni la pratique orale. Utilisé avec des supports authentiques et une activité régulière de production, il devient cependant un compagnon de long terme pour écrire et analyser anglais avec davantage de justesse. Si vous souhaitez soutenir Serge Berland de Lépine, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.